Apocalypse et guerre de religion.
Hommes des derniers âges, aux malfaisants, aux violents, aux stupides, la fin se rapproche lorsque viendront certains faux prophètes et qu'ils répandront leurs mensonges à travers les humains. Malheur à vous, tout l'univers créé se fondra en un et se dissoudra dans la pureté.
Les vrais prophètes appellent à des réformes, les militaires en guerre défendent un acquis, recherchent un gain. Les fanatiques de l'Apocalypse, eux, sont déjà dans un autre monde. Apocalypse, ça signifie dévoilement. À ceux qui ont été choisis, a été ouverte une porte sur la fin des temps et celle-ci ne se refermera pas. Dans cette perspective, la mort change de sens et ceux qui la donnent sont non seulement innocents, mais ils s'approchent plus vite du royaume ultime. Pour que des rédempteurs sacrificiels entrent dans cette autre temporalité, il ne suffit pas qu'il y ait du trouble, du ressentiment et des frustrations. Il ne suffit pas qu'il y ait des guerres. Il faut que les mythes que secrète la mort soient mis dans un certain ordre par la diffusion qui en est faite. La circulation des interprétations du temps est essentielle. On sait que le net est un terreau formidable pour la multiplication des signes du grand dérangement. Il en fut de même des guerres de religion du XVIe siècle qui, à bien des égards, sont les filles de l'imprimerie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Denis Crouzet. Bonjour à vous, Denis Crouzet.
Bonjour.
Alors vous avez beaucoup renouvelé l'histoire des guerres de religion. Enfin, elle en avait besoin parce que, à un moment, on avait fait semblant d'ignorer que les guerres de religion étaient religieuses. Vous avez publié de nombreux ouvrages sur ce sujet, notamment Les guerriers de Dieu chez Champvallon et puis récemment Plus mince et cursif et incisif, un petit livre avec Jean-Marie Le Gall aux Presses universitaires de France, Au péril des guerres de religion. La toile, aujourd'hui, l'imprimé hier, cultive les signes et les prodiges.
Oui, on est confronté dans cette histoire à deux moments au cours desquels une révolution médiatique est intervenue. Au XVIe siècle, la révolution médiatique est précédée et conditionnée par l'apparition de l'imprimerie. Et via l'imprimerie, ce sont non seulement les auteurs de l'Antiquité, des textes de géographes, d'historiens qui sont republiés, mais aussi l'Apocalypse qui occupe une part importante de ces livrets de 5, 10, 15, 30 pages qui sont publiés et qui racontent comment, avant la fin des temps, de multiples signes vont apparaître, les faux prophètes, des tremblements de terre, des brasiers de feu qui tomberont du ciel, et puis l'apparition des hérétiques qui, au dernier moment, précéderont la venue de l'Antéchrist qui détruira le monde et qui se combattra le Christ.
Donc, vous parlez des libelles de 5 à 6 pages, c'est eux qui sonnent le branle parce que on en connaît des dizaines de milliers d'exemplaires pour certains d'entre eux si on fait la totalisation. Mais la tonalité, elle est donnée en effet par le livre de l'Apocalypse. Alors, on va pas essayer de faire une lecture de l'Apocalypse dans le temps qui nous est imparti. Il faudrait comparer avec les autres textes du Nouveau Testament. Il faudrait dire que c'est une poésie, que sa rédaction a été composite, mais puisque je parlais de tonalité.
Une immense nuit, l'espace infini recouvrira du levant du soleil au couchant et du midi au nord, et un immense fleuve de feu, brûlant encore, s'écroulera des hauteurs du ciel et dévastera tous les lieux, et la terre, et l'immense océan, et la mer bleue, et les lacs et les fleuves, et les sources, et le sombre pays des morts, et le pôle céleste. Et dans le ciel, les astres encore se rejoindront et s'uniront dans l'immense forme vide de l'éther. Partout du ciel, des étoiles tomberont dans la mer, et toutes les races humaines claqueront des dents. Elles brûleront dans le fleuve et dans le soufre, et dans le feu plein d'élan qui fera flamber sous eux le sol, et la cendre recouvrira l'univers.
Certains élus ont eu le privilège, Denis Crouzet, d'être aspirés par le souffle de Dieu. Ils entrent dans sa confidence et ils voient se dévoiler devant eux la fin qui approche.
L'Apocalypse est une série de visions, de temps visionnaires, au cours desquels l'avancée vers la fin des temps se produit, et au cours desquels seul un petit nombre d'élus pourront porter l'eau blanche de l'élection et siéger aux côtés du Christ pour l'éternité, tandis que la masse de tous ceux qui auront péché, de tous ceux qui auront ignoré la colère de Dieu, sera précipitée pour l'enfer dans les souffrances éternelles et subira en plus ces signes terribles que sont le feu, le glaive, les maladies, etc.
Parce que en face, il y a par exemple la femme habillée de pourpre et d'écarlate, étincelante d'or et de pierreries, avec un gobelet d'or à sa main, plein des sales ordures de la débauche. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois et sur la terre.
Donc la grande prostituée de Babylone. Et là, on peut faire une comparaison avec ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui.
C'est-à-dire, vous disiez, il faut comparer la toile et l'imprimé du 16e.
La toile est submergée par une littérature apocalyptique qui décrit les différents signes majeurs et mineurs de la fin des temps, et dans une perspective islamiste, dit que là aussi, le petit nombre des croyants sera opposé à un grand nombre de mécroyants ou d'incroyants qu'il faudra tuer jusqu'au dernier pour que Dieu soit satisfait. Alors ces signes, c'est une lune fendue, une colonne de feu à l'horizon, des éclipses de lune, des hommes qui s'habilleront comme des femmes et des femmes qui s'habilleront comme des hommes. Et évidemment, la toile dit qu'ils sont en accomplissement, que la colonne de feu, c'est les champs pétrolifères du Koweït qui ont brûlé il y a quelques années, que l'Occident est rempli de cette mixité qui fait que l'homme s'habille comme la femme et vice-versa. Et il faut, l'objectif, donc, c'est de lutter pour tous ceux qui veulent rester fidèles à Dieu contre ce mal qui fait partie de l'avancée des temps.
Dans l'effort de compréhension qui est le nôtre, essayons d'introduire un vocabulaire à quoi certains de nos auditeurs ne sont peut-être pas habitués, parce qu'on est habitué à entendre parler sociologie, économie. Il serait peut-être temps qu'on connaisse des mots importants. Premier mot, eschatologie.
Eschatologie étymologiquement vient de l'eschaton, en grec, la fin. Donc, l'eschatologie, c'est la science de la fin par laquelle, grâce au message divin, les hommes peuvent connaître quand cette fin arrivera et supputer qu'elle est immédiate ou à plus long terme.
On vit un temps de passion eschatologique.
On est dans la passion, dans le panique eschatologique.
Alors panique, deuxième mot justement.
Panique. Alors c'est un terme qui a été employé par l'historien Alphonse Dupont. Le panique et pas la panique. Il faut différencier. Le panique, c'est l'invasion dans l'imaginaire humain d'une fébrilité angoissé, qui porte à se préparer à cette fin du temps et donc à être un combattant de Dieu contre tous ceux qui incarnent le mal.
Alors dans ce désordre de l'imagination que provoque tout ce choc de représentation, parce que l'apocalyptique c'est un choc de représentation contradictoire, une situation comparable s'est déjà présentée au moment des guerres de religion en France. Je vous propose qu'on suive un enfant de 8 ans, il s'appelle Agrippa d'Aubigné. C'est un enfant de 16 ans qui règne en France en 1560, il s'appelle François II. Il est à Amboise, des conjurés protestants, huguenots, ont voulu mettre la main sur la cour, et les responsables sont châtiés, noyés dans la Loire, massacrés par la foule ou pendus aux balustrades du château, leur corps déshonoré. Le petit Agrippa est pendu, lui, à la main de son papa.
On ne se bat pas à ton âge, on apprend.
Oui, mais quand j'aurai appris, je me battrai.
Oh, tu as le temps d'y penser.
À Paris, il n'y a que des papistes, il faudra bien que je me batte.
Mais là où tu vas, il n'y a pas de papistes.
C'est dommage.
Ils sont là. Ils tiennent encore.
Qui est-ce ?
Les pendus d'Amboise.
Les pendus d'Amboise.
Voilà comment les papistes traitent les sujets du roi. Ils étaient venus de toutes les provinces de France. 3000. 3000 qui en avaient assez des prisons, des gibets, des tortures, de la faim au ventre et des souillures de Dieu.
N'aie pas peur, Agrippa.
Lève les yeux.
Oui, mon père.
Garde-les fixés et prie avec moi. Gloire à Dieu le Père, et au Fils ressuscité des morts, ainsi qu'au Saint-Esprit dans les siècles éternels.
Ainsi soit-il.
Celui qui sacrifie sa vie en ce monde la conserve pour la gloire éternelle. Le juste grandira comme le palmier.
Il s'élèvera comme le cèdre du Liban.
Que son âme et les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde de Dieu.
Ainsi soit-il.
Agrippa, tu es mon seul bien. Un jour, tu seras seul, toi aussi. Il ne faut pas que ta tête soit épargnée après la mienne pour venger ces chefs pleins d'honneur.
Non, mon père.
Attention, messire, il y a des gens qui guettent.
Si tu t'en épargnes, tu seras maudit.
Oui, mon père. Je le jure.
ORTF, haute époque, 1967, Olivier Ricard et Roger Vrigny, concepteurs de cette émission. Et encore, on vous a épargné la vue du corps du chef des rebelles, coupé en 5 morceaux qui sont ensuite exposés aux portes de la ville d'Amboise.
À partir du moment où le sacré passe sous la tension d'une certitude de la fin des temps, il faut agir par la plus grande violence et par la violence rejoindre la volonté divine. Et dans ce cadre, les corps des adversaires deviennent des signes à nouveau de cette fin des temps imminente. Et pendant les guerres de religion, comme on voit aujourd'hui, la violence utilise les corps comme un langage. Il s'agit de traiter les corps en les animalisant, en les infernalisant, donc animalisant, en les accouplant avec un cochon mort, animalisant en organisant des chasses dans les villes, comme on chassait une bête sauvage entrée en ville, en les infernalisant, en mutilant leur visage, comme on montrait qu'en enfer, les démons mutilaient les damnés. Etc. Donc,
Je rappelle que vous parlez là de Denis Crouzet, de la France de 1562 ou de 1572. Agrippa a maintenant 12 ans, 20 ans au moment de la Saint-Barthélemy. Il aurait pu assister à des scènes de cannibalisation.
Il y a eu aussi des scènes de cannibalisation. Par exemple, lorsque, à Orléans, les protestants cassent l'urne dans laquelle le cœur du roi François II était conservé, embaumé, ils vont mordre dans le cœur. Cannibalisme symbolique, mais qui rappelle ce que l'on a vu récemment en Syrie, où un chef djihadiste a arraché le cœur d'une de ses victimes et a mordu dedans devant la caméra.
Il y a sur la toile un texte qu'on intitule « Gestion de la barbarie ou administration de la sauvagerie » selon les cas, qui est vieux d'une dizaine d'années et qui est l'œuvre d'un collectif, semble-t-il. Mais administration, gestion, sauf qu'il y a aussi, là je reviens aux guerres de religion, avec les rites du jeu, avec l'horreur du rire.
Les acteurs de ces violences, comme aujourd'hui, se pensent sur un théâtre. Donc la violence aussi est démonstrative à l'égard de ceux qui peuvent être encore dans le doute. Et par exemple, lorsque les calvinistes vont s'attaquer aux images, qui pour eux sont une profanation de la gloire de Dieu, ils vont jouer comme si, par exemple, une image était coupable de crime. Mais crime à l'égard de Dieu, donc, ils vont décapiter comme sur le lieu où un coupable de meurtre était exécuté. Il y a toute une symbolique qui fait que aussi ils s'adressent à ces statues qu'ils brûlent en disant que leur pouvoir magique, leur pouvoir, leur vertu divine n'est pas opératoire pour les protéger du feu qui est le feu de Dieu.
Et quand on convie des enfants à lapider les prisonniers, c'est un jeu.
Des petits-enfants, à plusieurs reprises, on les voit dans les textes, se sont substitués aux adultes pour mettre à mort l'hérétique, entre guillemets, le calviniste, et par lapidation, parce que, disent les textes, les violents s'inspirent de la parole du Christ, laissez venir à moi les petits-enfants, ils sont simples et innocents, ils incarnent donc par leur pureté une immédiateté du Christ, ils sont le Christ sur terre qui montre la voie à tous ceux qui pourraient douter et se laisser séduire par l'hérésie.
Encore un peu de consolation maintenant, c'est nécessaire en ce jour de deuil, c'est le répond funèbre pour ensemble vocal de William Byrd, un Anglais qui était tour à tour catholique ou anglican. Philippe Hervègue est à la direction du Collégium Vocalé de Gand. Et ensuite, puisque nous parlons non seulement de consolation mais de rationalisation, vous entendrez la voix de l'auteur des essais.
Je me suis couché 1000 fois chez moi, imaginant qu'on me trahirait et assommerait cette nuit-là. Et me suis écrié après mon Padenôtre, Impius haec tam culta, novali amiles abebit. Ces terres que j'ai tant cultivées, c'est donc un soldat impie qui les aura. Les guerres civiles ont cela de pire que les autres guerres, de nous mettre chacun en sentinelle en sa propre maison. C'est grande extrémité d'être pressé jusque dans son ménage et repos domestique. Le lieu où je me tiens est toujours le premier et le dernier à la batterie de nos troubles et où la paix n'a jamais son visage entier. Toute ma petite prudence, en ces guerres civiles où nous sommes, s'emploie à ce qu'elle n'interrompe ma liberté d'aller et venir.
Pendant que la fureur des hommes imagine la colère eschatologique, je reviens sur le mot, de Dieu, Montaigne, on l'entendait lu par Daniel Mesguich, pratique le désangoissement, pour reprendre le vocabulaire du XVIe siècle, en son particulier.
C'est aussi, c'est là où l'histoire peut peut-être nous servir de guide dans nos pérégrinations actuelles qui sont tragiques au milieu de ces violences. Montaigne nous dit combien chacun a peur de l'autre, combien l'autre, catholique ou protestant selon sa foi, est peut-être celui qui va faire venir la mort. Mais en même temps, Montaigne a ceci de formidable, c'est de nous enseigner à nous que nous devons rester distants, ne pas nous laisser submerger par cette peur qui ferait que nous haïrions l'autre et que nous le prendrions comme cible, comme font les acteurs de ces crimes violents que nous voyons, Saint-Barthélemy et autres.
Parce qu'il s'essaye dans la peau des autres, lui. Que ferais-je si j'étais sous le feu des canonnades? Que serais-je si j'étais prédicateur, etc.
Oui, mais en même temps, les essais sont construits pour expliquer que l'autre et doit être enseigné, l'autre doit être ne doit pas être persécuté, l'autre doit être finalement accepté pour être guidé vers une sortie de ces violences qu'il croit suscité en lui par Dieu. C'est donc là où le XVIe siècle est intéressant pour nous, pas seulement parce qu'il nous montre que l'on peut comparer un univers eschatologique avec un autre, mais aussi parce que des hommes ont cherché à sortir de ce cercle vicieux et sortir sans appeler à la guerre, sans appeler à la conflictualisation, en faisant confiance à une vertu qui est celle de la patience, de l'acceptation du dialogue avec l'autre.
Le pire, c'est d'être muet, parce que le langage, c'est tout ce que nous avons pour faire face à la mort, au silence, au vide.
Oui, et donc parler et écrire. Et écrire que l'avenir n'est pas la violence.
Parler à bon escient. Merci à vous, Denis Crouzet.
Merci.
Vos livres aux presses universitaires de France et des guerriers de Dieu aux excellentes éditions. Chant Vallon, l'émission était préparée par Elinka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, à la réalisation Stéphane Ronxin, la technique Grégory Vallon.